Bon, alors, il faut que je commence en racontant ma vie. Je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nord. J'enseigne la littérature française. Je me suis spécialisé dans l'étude des textes autobiographiques. Et d'abord, j'avais étudié surtout les grands auteurs de la littérature française qui avaient écrit des autobiographies. Genre Sartre, Rousseau, Gide ou d'autres, Michel Léris. Peu à peu, mes goûts se sont démocratisés. Tout en continuant à m'intéresser aux grands écrivains, il m'est apparu que la pratique de l'écriture autobiographique était quelque chose qui était à la portée de tout le monde. Moi, ça veut pas dire que tout le monde le faisait, mais tout le monde est susceptible de faire ça à un moment quelconque de sa vie, sous une forme quelconque. Donc je me suis mis à m'intéresser aux écritures autobiographiques, je dirais pas des gens ordinaires, parce que c'est supposé qu'il y a des gens ordinaires, des gens extraordinaires, mais de tout le monde. Et c'est dans le cadre de ce genre d'intérêt que j'avais travaillé sur les textes autobiographiques donc de mon arrière-grand-père. Je vous montre la couverture tout de même. Bon. Qui était employé de commerce au 19e siècle. Alors peut-être que le goût de l'écriture autobiographique est héréditaire, puisqu'il avait passé son temps, ses dimanches, ses soirées, à griffonner, à écrire rien d'autre d'ailleurs que sa vie, parce qu'il n'avait aucune imagination. On avait retrouvé ses papiers, on en avait fait un livre, et c'était l'objet de ce livre que j'ai venu présenter, c'était il y a 4 ans, je crois, en 86. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une autre entreprise qui d'ailleurs a succédé à peu près dans le temps à celle-là, dans la généalogie de mes intérêts, si je puis dire. L'idée, c'était de faire une étude et une enquête sur la pratique du journal intime. Et le plus simple, c'est que je vous raconte comment l'idée m'en est venue. Pourquoi l'idée m'est venue de faire cette enquête, dont le résultat, enfin l'un des résultats, est ce livre, Cher Cahier, un recueil de témoignages, qui n'est en fait pas vraiment un livre de moi, ou qu'à moitié un livre de moi, paru chez Gallimard, donc au début de cette année. Il y a toujours un incident déclencheur dans une recherche, et le jour où j'ai eu cette une petite conversation de 2 minutes, et j'étais loin de penser que cette conversation aurait des suites telles que ça fait 4 ans que je suis en train de travailler là-dessus. C'était en janvier 87, donc il y a 3 ans et demi, presque 4 ans, il faisait très froid d'ailleurs. C'était un colloque, et il avait été question dans l'un des exposés de journaux intimes. Il y avait eu une discussion publique, et après, je me suis trouvé dans une conversation privée avec une amie, qui me dit, vous savez Philippe, maintenant les jeunes d'aujourd'hui, ils tiennent beaucoup moins de journaux que nous autrefois. C'était quelqu'un de ma génération, moi j'ai 52 ans, donc voilà, on est. Et que les adolescents d'aujourd'hui, nous on écrivait beaucoup de notre temps, dans notre génération, mais maintenant ça se perd, on écrit beaucoup moins que nous ne le faisions à leur âge, etc. Et bon, mon ami s'appelait Eliane, moi je lui ai immédiatement soutenu la thèse contraire, par esprit de contradiction, en même temps en pensant que le développement de la scolarisation à l'âge de l'adolescence devait la portion des gens scolarisés maintenant jusqu'à 16 ans, quand j'ai fait la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, ça date de quand? Je sais pas s'il y a des historiens dans la salle, c'est le début de l'année 60, avec tous les collèges, etc. Bon. Il y a maintenant beaucoup plus d'adolescents qui sont scolarisés, qui sont habitués à vivre avec de l'écriture, du papier, etc. Ils sont sûrement aussi encore plus malheureux que nous étions. Donc, on voit pas pourquoi il y en aurait pas un plus grand nombre qui se jetterait sur du papier pour écrire des journaux intimes. Je vais donner cet argument, et puis, bon, on a discuté un peu 2 minutes, et puis au bout du compte, on s'est aperçu, en fait, que, à une question pareille, on ne pouvait pas répondre. Elle avait une hypothèse de réduction de l'écriture de journal intime depuis une 30aine d'années. Moi, j'avais une hypothèse inflation, mais en fait, ce n'était que des hypothèses, et nous n'avions aucune preuve, et alors surtout, réfléchissant et faisant une petite enquête bibliographique, puisque nous sommes des universitaires, donc nous allons immédiatement voir la bibliographie sur le sujet, qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qu'on peut trouver, donc nous nous précipitons, reprécipitons sur des livres que nous connaissions déjà, des livres qui traitent de l'histoire du journal intime, des livres de Béatrice Didier, de Alain Girard, d'un sociologue, d'une littéraire, et naturellement, il n'y avait aucune indication, aucune information d'aucune sorte là-dessus. Pour une raison très simple, c'est que tous les gens qui ont écrit des livres ou des études sur le journal intime, ou presque tous, se fondent uniquement sur la lecture des journaux intimes publiés. Alors, ça a l'air idiot, parce que on dit maintenant, voulez-vous qu'ils fassent autrement? Ils étudient, si vous étudiez les romans en France, bah, vous allez étudier les romans qui sont publiés. Mais le cas est peut-être différent pour le roman et pour le journal intime, dans la mesure où au fond, pour la carrière normale d'un roman est d'être publié. Donc on peut penser légitimement que ceux qui sont publiés ont plus d'intérêt que ceux qui ne sont pas publiés. Le même raisonnement n'a aucune valeur pour le journal intime, parce que la destination du journal intime n'est pas, en principe, d'être publié. Donc, le fait que des journaux intimes soient inédits n'enlève rien à leur valeur, ou même, au contraire, même souvent ajoute à leur valeur. Donc, se limiter à l'étude des journaux publiés, c'est en fait se limiter à l'étude d'une catégorie particulière de journaux, les journaux, en fait, de gens qui ont de la notoriété, c'est-à-dire des écrivains, des hommes politiques ou des artistes, ou des gens qui, par ailleurs, ont conquis une certaine notoriété, qui du coup ont vu leur journal édité, comme on a aussi édité leur correspondance, leur papier, leur note de blanchisserie. Bon. Quand on consulte ces livres, on s'aperçoit qu'il n'y a rien sur ce problème. Ni Alain Girard, ni Béatrice Didier n'arrivent à se poser des questions, ces questions si simples, de savoir, après tout, pour une pratique qui n'est pas au départ une pratique littéraire, qui est une pratique culturelle, de base, de savoir combien il y a de gens qui la font. Si vous faites une histoire, je sais pas, du jeu d'échecs en France, c'est intéressant de savoir peut-être qu'il y avait, je sais pas, 3000 personnes qui jouent aux échecs en France ou en 1850 et qu'aujourd'hui il y en a 100 000 par exemple. Je dis des chiffres absolument en l'air. Pour une pratique culturelle, c'est important même d'évaluer la masse des gens qui sont concernés par une pratique. Alors, Eliane et moi, on s'est dit, il y a plus qu'une chose à faire. On va aller voir sur le terrain. Alors, naturellement, le terrain ne pouvait être que le terrain de 1987, le moment où on était. On pouvait avoir de l'information sur les pratiques, c'est ce que j'ai essayé de récolter, sur les pratiques des gens aujourd'hui ou dans un passé récent, mais effectivement, on ne peut pas faire des enquêtes rétrospectives. C'est beaucoup plus difficile de faire une enquête pour savoir qui tenait un journal intime vers 1950, 1955, à l'époque où Eliane et moi, nous étions adolescents et nous tenions notre journal. Bon, mais on s'est dit, au moins, on va déjà essayer de savoir ce qui se passe maintenant. Parce que même maintenant, on n'a aucune idée. Donc, idée de lancer une enquête. Vous devinez bien que si des gens aussi savants que un sociologue comme Girard ou une littéraire comme Béatrice Didier ne sont pas allés à la recherche de ce genre d'informations, c'est qu'il y a aussi une raison, c'est que c'est très difficile à obtenir. Bon, vous allez voir, enfin, je voudrais vous expliquer comment j'ai fait. C'est un problème. Donc, au départ, il y a cette espèce de curiosité pour un phénomène qui avait jamais été étudié. Pour un chercheur, c'est très intéressant de trouver. C'est-à-dire, dans un champ aussi exploité, on a l'impression qu'on a tout écrit sur les journaux intimes, question si bête, incapable d'y répondre. Une autre motivation qui m'a poussé à cette enquête sur la pratique du journal intime, c'est l'étendue et la persistance, le caractère désagréable des préjugés, que peut-être vous partagez, on va voir ça, qui entourent la pratique du journal intime. Le journal intime a mauvaise presse. La France se divise en deux catégories, en deux parties. Ceux qui tiennent un journal intime, ceux qui tiennent pas un journal intime. Je vais pas faire demander qu'on lève le doigt pour savoir si vous êtes tout à fait en dehors du champ de mon enquête. Pour toutes sortes de raisons, il y a des préjugés. Et alors, je peux vous le dire parce que moi, je les ai rencontrés au cours de mon enquête. C'est une activité qui est inquiétante pour les autres. Vous êtes dans la rue. Si vous croisez dans la rue quelqu'un dont vous voyez qu'il parle tout seul, vous êtes inquiet pour lui, un peu pour vous. C'est pas normal de parler tout seul en marchant dans la rue. Et bien, d'une certaine manière, c'est pas normal de se retirer chez soi pour écrire des choses que personne ne lira. Accumuler des écritures que personne ne lira, on va voir d'ailleurs dans certains cas que soi-même on ne relira jamais. Le langage est fait pour communiquer et le journal est une pratique qui a l'air de détourner le langage de sa véritable fonction de communication. Il y a l'espèce de ce fantasme, une espèce d'écriture pour soi, d'écriture totalement circulaire, qui se retire du jeu social. Je vais vous énumérer tous les préjugés, vous allez reconnaître peut-être tout ce que vous avez pensé. Moi j'ai pensé ces choses-là à certains moments de ma vie aussi. Il y a des moments, les préjugés, je les ai eus, je les ai perdus, je les ai retrouvés. Bon. Alors on regarde ça de haut, et on dit de toute façon, ça c'est un truc d'adolescent, c'est la puberté, c'est comme l'acné, le journal intime, c'est à peu près comme les boutons, et bon, il y a une époque pour ça, voilà. Et puis ça passe. Et puis, je mets des guillemets autour de tout ce que je dis, je ne partage pas tous ces horribles préjugés. C'est affreux de penser qu'on n'est plus un adolescent. Puisque c'est ça, enfin, le mépris qu'il y a pour des activités d'adolescent, c'est considéré comme pas sérieux, alors que l'adolescent se pose tous les grands problèmes fondamentaux. Donc pourquoi mépriser ça? C'est une activité de petite fille. c'est féminin. Et ce qui est féminin est de seconde zone, de second ordre, n'est-ce pas? J'ai souvenir d'avoir été un jour dans une pièce, on était quatre ou cinq, et j'avais en face de moi une personne qui est une archiviste, tout à fait respectable, que j'étais venu consulter sur des problèmes du journal intime, avec qui j'étais venu faire des propositions qu'elle a d'ailleurs refusées, et qui me disait en me regardant avec pitié, mon cher monsieur, le journal intime, mais qu'est-ce qui encore de nos jours tient un journal intime? Ça ne se fait plus. C'est démodé, c'était nos grands-mères, etc. Alors, il y avait dans la pièce, il y avait cinq personnes. Je lui ai dit, bah, écoutez, faisons un essai. On interroge les cinq personnes qui sont là, et on leur demande si elles ont tenu un journal intime, etc., à un moment quelconque de leur vie. Il s'est trouvé que sur les cinq personnes, il y en avait trois qui devaient répondre positivement. L'une, qui était une dame, qui n'était plus adolescente, et que j'avais dans cette espèce de sondage impromptu, un peu forcé à répondre, à avouer que, ben oui, il faut bien le dire, les choses comme elles étaient, elle avait tenu un journal intime, elle a bien été obligée de dire que oui, l'honnêteté, elle a dû avoir une éducation morale solide, donc l'honnêteté l'a forcée à avouer qu'elle avait tenu un journal, mais elle a dit ça en rougissant et en ajoutant immédiatement, oh, vous savez, un journal de jeune fille, j'avais 15 ans, hein, l'air de dire, péché de jeunesse, maintenant je suis grande. Hein, ces enfantillages-là sont finis. Donc c'est des choses d'adolescents, de petites filles, etc. C'est des activités un peu ridicules. Alors, il y a d'autres préjugés contre le journal intime. C'est une activité, se retirer tout seul pour faire ça, c'est un petit peu aussi une forme d'auto-érotisme, de masturbation, et avec tous les préjugés ou les répulsions qu'entraînent des conduites qui finalement échappent au jeu des échanges interpersonnels normaux. Hein. Soi-disant normaux. Et puis alors, surtout, qu'est-ce que c'est narcissique, nombrilique, enfin, etc., etc. Là, vous pouvez. Ça ne se fait pas de se regarder soi-même comme ça. Hein. Bon. Alors, à quoi je répondrais si le procès du journal intime était engagé en ces lieux, ce qui, je suppose, n'est pas le cas. À quoi je répondrais que, en fait, de narcissisme et de nombrilisme, je crois que c'est aussi extrêmement répandu chez les gens qui ne tiennent pas de journal intime. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi, narcissisme, nombrilisme? Pourquoi traiter de narcissiste ou de nombriliste quelqu'un qui pratique, dans sa vie privée, une activité qui n'expose pas aux yeux des autres? Ça n'a rien de vaniteux ou d'orgueilleux. Et le fait de s'occuper de soi-même, c'est une manière comme une autre de maîtriser sa vie, de la diriger. Pourquoi on ne passerait pas avoir de l'écrit pour ça? Mais personne n'attaque ici le journal intime, donc je remballe mes arguments. Comment faire une enquête sur une activité qui, par définition, se dérobe à l'enquête? Est-ce que les écrits familiaux, on sait, ont tendance à se perdre? Bon, dans les déménagements, les successions, on brûle les lettres, les vieux écrits, etc. Mais le journal intime est un genre qui a une vocation tout à fait spéciale à l'évaporation. C'est-à-dire que les journaux intimes, non seulement ils se perdent au cours d'une vie et ils s'égarent et se détruisent dans les successions, mais très souvent les auteurs de journaux intimes eux-mêmes les détruisent. Donc ce qui expliquerait aussi qu'il soit assez difficile de mettre la main dessus. J'allais donc me lancer dans une enquête à la recherche de cette pratique secrète, ce qui est un peu contradictoire. Il y a des moments où je me disais, si tu trouves quelque chose, enfin je faisais des paradoxes, si tu trouves quelque chose dans ton enquête, ça sera plus secret. Donc ça sera plus l'objet de ton étude. Et sophiste. Et puis, quelquefois, des scrupules, plutôt, ça prenait la forme du scrupule. Dans toutes ces écritures désirent rester secrètes. Qu'est-ce que tu vas faire à aller les débusquer? Vilain voyeur que tu es, est-ce qu'au fond, tu vas pas les gâcher? Donc, laisse-les tranquilles. Est-ce que ton enquête, me disais-je, va pas être un grand désastre écologique? Il y a une forêt vierge, voilà, et toi, tu vas l'explorer, tu vas construire des autoroutes dedans. Alors ça, c'est des scrupules qu'on a avant. En fait, bon, je suis sûr, absolument certain que dans mon enquête, je n'ai violé aucun secret, aucune conscience, que toutes les choses qu'on m'a communiquées, les gens qui me les ont communiquées, je peux vous garantir qu'ils avaient extrêmement envie de me les communiquer. Mais la limite, c'est qu'effectivement, tout au long de l'enquête, j'ai toujours été en contact avec des gens qui acceptaient faire ce pas de répondre à l'enquête. Et que je peux supposer qu'une partie de la réalité m'a échappé. Que les gens vraiment secrets n'ont pas accepté d'entrer dans mon enquête. Et alors je vais dire une chose que j'ai dite à moitié dans le livre, mais que je ne voudrais pas dire, c'est que moi, j'aurais jamais répondu à ma propre enquête. Bon, je vais vous raconter comment j'ai fait mon enquête, je pense que j'aurais pas répondu. Ça m'amène à vous préciser tout de même dans laquelle les deux catégories des Français j'appartiens, ceux qui tiennent un journal intime, ceux qui n'en tiennent pas, bien évidemment j'appartiens à la partie qui en tient, qui en a tenu. J'ai tenu un journal intime de l'âge de 15 ans, quand je suis rentré en première. Les premières entrées de mon journal intime, c'était en latin. J'étais en A, section A, latin, grec. On faisait l'aide de Cicéro et tout. Alors, les premières entrées de mon journal, je le raconte maintenant parce que c'est une indiscrétion et je... Mais c'est très mignon. Alors, c'était comme des lettres de Cicéron à son ami Intel, etc. C'était des lettres que je m'adressais. Alors, c'était des lettres latines que je m'adressais à moi-même. Mais juste, rassurez-vous, je suis au début, après, j'étais pas capable d'écrire le reste en latin. Donc, j'avais 15 ans. J'étais parfaitement normal. C'est-à-dire qu'avant, j'avais écrit des poésies. Puis, j'ai arrêté. Je suis passé de la poésie à la prose, voilà. Bon. Quand je me suis aperçu que mes vers étaient mauvais, j'ai mis un certain temps. Et puis, la prose a été mauvaise, mais c'est moins d'importance parce qu'elle prétendait pas être bonne. Tandis que les vers prétendaient être bons. Voilà. Et puis c'était tout de même un peu limité ce que j'arrivais à exprimer en alexandrin. Donc la prose était tout de même plus commode pour ce que j'avais à dire. Donc j'ai abandonné l'idée d'écrire des vers et je me suis lancé dans un journal intime que j'ai tenu de 15 ans à... Alors je sais quand je l'ai commencé, ça c'est très net, mais je peux absolument pas vous dire quand je l'ai fini, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais c'est vers 23-24 ans, quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas tenu un journal intime, vous devez vous dire, quoi, le pauvre type? Alors, de quel bagne? De 15 ans à 24 ans, les plus belles années de sa vie, tous les jours, il sait, etc. Il y a aussi un autre préjugé, c'est que les gens s'imaginent que quand on tient un journal intime, on écrit tous les jours. Alors, ça arrive. C'est une des modalités possibles du journal intime. Mais moi, je vous dis tout de suite, si le journal intime avait consisté à écrire tous les jours, j'aurais renoncé tout de suite. Hein. Bon, j'écrivais quand j'avais besoin d'écrire. Bon. Maintenant, depuis 3 ans, 4 ans, je retiens un journal intime. Et puis, je suis passé par une période de 25 ans pendant laquelle je n'en ai pas tenu. Et j'avais ça en horreur, d'ailleurs. J'avais presque tous les préjugés que je viens de vous dire tout à l'heure. Je les avais, bon. Et puis, m'y suis remis. Bon. On peut très bien, je peux par exemple dire en public, je tiens un journal intime, alors que j'ai pas écrit une ligne dedans depuis 2 mois. Ça n'a aucune importance. C'est que j'ai l'intention de... Bon, ça s'est pas trouvé, mais j'ai l'intention de continuer. Donc, je considère qu'il est ouvert, qu'il est en train, que simplement, là, il y a une lacune de 2 mois dans laquelle je suis actuellement. Mais le journal existe et il continue. Bon, alors maintenant l'enquête. Comment faire donc pour enquêter sur les pratiques réelles d'aujourd'hui, celles qui ne sont pas publiées dans des livres imprimés? En gros, il y a 2 méthodes. La première, c'est d'essayer de trouver des journaux manuscrits, inédits ou dactylographiés. Et la seconde, c'est d'interroger les gens qui tiennent des journaux. Alors je vais prendre les 2 méthodes successivement, vous montrer ce que ça donne. Première méthode, donc, essayer de trouver où sont. Je suis un scientifique, n'est-ce pas? Je suis payé par l'université, par l'État pour faire des études sérieuses. Donc si j'étudie le journal intime, il faut que j'ai l'objet sous les yeux. Vous voyez pas un scientifique qui étudierait un objet qu'il n'a pas sous les yeux. Bon, donc faut que je les trouve, les journaux intimes. Où est-ce que je vais les trouver? Très difficile, bien sûr, il y en a dans les journaux intimes inédits, il y en a dans les archives, vous allez dire, ben, allez chercher dans des dépôts d'archives. Oui, il y en a, bien sûr, et c'est une longue recherche, d'ailleurs, seulement en général, ce sont des journaux intimes du passé. C'est pas les journaux intimes absolument contemporains. Donc, je me retrouvais au début du XXe siècle, au XIXe siècle, etc., ce qui est extrêmement intéressant, mais c'était pas ça que je cherchais, c'était des journaux intimes, disons, des 20, 30 dernières années, enfin, des choses contemporaines. Alors j'avais une solution qui est de mettre une petite annonce dans la presse. J'avais vu dans un journal sérieux, qui est Le Monde de l'Éducation, une page entière de réclame qui était faite par une chercheuse en linguistique qui travaillait sur le langage de la rupture amoureuse. Et c'était un article qui s'intitulait « Ne jetez plus vos lettres de rupture, envoyez-les-moi ». J'ai commencé, alors ensuite à l'expliquer, j'ai commencé une thèse, j'ai pas beaucoup de matériel. Hein, donc si vous avez des lettres de rupture, soit que vous avez envoyées, soit que vous avez reçues, ça m'intéresse beaucoup, discrétion assurée. Alors, est-ce que j'allais faire ça? Je vais mettre une petite annonce dans le journal. Je cherche journaux intimes. Envoyez-moi marchandises fraîches. Hein. Qu'est-ce que ça aurait donné? Ben, je crois que ça aurait pas donné grand-chose. Et je le sais, ben, je l'ai pas fait. J'ai pas fait sous cette forme-là. Vous allez voir que je l'ai fait sous une autre forme. Parce que, à la suite de certaines de ces publications, Cher Cahier, par exemple, a donné des idées à des journalistes. Donc, j'ai eu des contacts avec un certain nombre de journalistes. C'était formidable, une mine, etc. Bonne idée, on va refaire ça, nous aussi. Et on va donc, en particulier à la radio, on va faire des émissions avec des journaux intimes à la radio. Et il y a une journaliste, personne d'ailleurs fort bien, qui a eu cette idée et qui a mis des petites annonces. Et ça n'a pas marché du tout. Les gens n'ont pas donné suite. De toute façon, vous n'avez pas envoyé votre journal intime comme ça. Hein. Enfin, et si vous le faites, c'est qu'en fait, c'est pas sérieux. Bon. Mais j'ai pas perdu espoir. Donc, parlant de tout ça à droite ou à gauche, j'ai eu vent, connaissance de deux entreprises qui m'ont paru hallucinantes. L'une d'entre elles, je l'ai utilisée, exploitée. La première, c'est un collègue italien qui me dit « Vous travaillez sur le journal intime. Alors, j'ai un phénomène à vous signaler. Il existe actuellement un prix du journal intime en Italie qui est décerné à Pieve Santo Stefano, province d'Arezzo. Vous avez qu'à écrire, voilà l'adresse. » Voilà, l'histoire est la suivante. C'est l'histoire d'un journaliste italien, un communiste spécialiste de l'Amérique latine, qui a été longtemps correspondant de, je crois, de l'UNITA à Cuba, qui s'appelle Saverio Tutino, qui avait, en plus de son intérêt pour l'Amérique latine, un intérêt pour l'écriture populaire. Et il avait une espèce d'idée missionnaire qui était que l'écriture populaire, l'écriture de Monsieur Tout-le-Monde a énormément de valeur, qu'elle est méprisée, qu'elle se perd, et que c'est une catastrophe, et que donc il fallait valoriser cette écriture, la sauver, etc. Bon. La mettre en valeur, l'archiver, et la diffuser. Alors, il a eu une idée géniale, il s'est dit, bon, pour attirer les textes et les valoriser, il faut faire un concours avec un prix, et dire aux gens d'envoyer leurs textes ou des documents. Et puis, grâce au concours, on arrivera à constituer un fonds d'archives. Le but, finalement, c'est de constituer un fonds d'archives. Est-ce qu'il va aller voir les archives italiennes, nationales, ou etc. Alors, il ne l'a pas fait, d'ailleurs, il a très bien fait, parce que moi, j'y suis allé en France, je me suis quasiment fait jeter. Bon, c'est des idées totalement saugrenues que aucune institution sérieuse n'envisagera. Donc, il a pris le problème par l'autre bout. Il s'est dit, si je veux faire une archive, des archives, je dis une archive parce qu'en italien c'est singulier, archivio, il faut qu'elles aient de la durée. Donc il faut qu'ils soient installés dans un endroit public. Mais Saverio Tutino savait très bien ce que c'est qu'une grande administration. Il savait qu'elle étoufferait, ou qu'elle refuserait, ou qu'elle étoufferait immédiatement une initiative de ce genre. Donc il s'est dit, je vais faire le contraire, je vais aller dans ce cas de plus petit. Je vais chercher une commune rurale et essayer d'y implanter des archives autobiographiques nationales. Alors, comme il passait ses vacances en Toscane, je sais pas si c'est encore la Toscane, donc il passait ses vacances dans cette région, et il s'est mis à faire la tournée des maires de tous les villages, en disant, voilà mon idée, l'écriture populaire se perd, l'écriture autobiographique, les journaux, les lettres, les mémoires, il faut les sauver, on fait un concours, on fait des archives, moi j'y ai intérêt, et vous, votre commune deviendra célèbre. Il avait un atout, c'est qu'il était un journaliste très connu, donc il avait l'habitude face d'un professionnel, puis il avait un réseau de relations extrêmement étendu, donc... Il avait la possibilité de monter quelque chose, même s'il n'avait pas un sou, rien du tout. Et tout le monde le a ri au nez. Tous les maires de ces petits villages touristiques ou viticoles, ou etc. Et puis, le miracle, un jour, il est tombé sur un maire qui lui a dit « C'est loufoque votre idée, mais c'est sympathique, et puis au fond ça coûte pas cher. On va essayer, de toute façon on ne perdra pas grand-chose. Essayons, mais vous allez rien recevoir du tout, personne ne va rien vous envoyer. » Donc c'était le maire de ce petit village, Pieve Santo Stefano, un lieu saint de l'autobiographie. Donc le maire a dit oui, on essaye, c'est-à-dire je vous mets deux pièces à votre disposition, secrétariat, le courrier, l'électricité, le téléphone. Alors il a essayé et ça a marché. Ça a marché, ça veut dire que le premier concours a lieu en 84, c'est 84, 85, je ne sais plus, enfin, cette année c'était la sixième année que ça se passait. Chaque année ils reçoivent 160, 170 envois de textes autobiographiques de toute nature, des journaux, des mémoires, des correspondances, etc., en général contemporains, mais on peut aussi envoyer des choses qui remontent plus loin dans le passé, si on en a dans ses archives familiales, bien sûr. Et le système est le suivant, il y a un jury qui est choisi dans la population locale, composé de 10 personnes du village, qui sont plutôt des personnes lettrées, le pharmacien, l'instituteur, etc., des étudiants, des dames qui ont fait des études, et qui lisent tous les 170 textes, c'est fantastique, il se passe l'année, hein. Ils se comportent comme des lecteurs d'une maison d'édition, avec rapport, lecture multiple, etc., tout ça bénévole. Bon. Ils y passent pratiquement de septembre à mars, à peu près, enfin, tout l'hiver se passe en lecture, et ils choisissent dans tous les textes qui arrivent, les 10 qui leur paraissent les plus intéressants. Ensuite, les 10 qu'ils ont sélectionnés sont soumis à un jury, l'inverse, un jury national, qui au contraire fait d'écrivains et de journalistes célèbres, à qui on ne soumet que ces 10-là, et qui choisissent parmi les 10 celui qui aura le prix. Et le prix est décerné ensuite, quand on a le prix, on a son livre publié. Mais très souvent, des livres qui ont été dans les 10 livres sélectionnés, et même quelquefois d'autres, grâce à ce travail, trouvent des éditeurs. Donc en fait, ils ont déjà, depuis 5 ou 6 ans, ils ont fait publier à peu près 25 livres. Alors, les critères du jury, ben, il faut que ça soit intéressant. Et si c'est écrit de manière habile ou saisissante ou avec du style, ben, tant mieux, mais c'est pas ça qui est cherché. Disons, donc c'est pas un prix littéraire, c'est un prix. L'idée, c'est plutôt le document humain. Pour que vous voyez comment ça fonctionne, je peux vous décrire ce qui s'est passé pour le prix de cette année. Donc vous allez voir immédiatement d'après les exemples concrets. Je termine l'histoire. Donc chaque année, le prix est décerné sur la place du village, dans la fête du village, qui est le 8 septembre. Donc j'y suis déjà allé deux fois. Je suis allé le 8 septembre 88 et le 8 septembre de cette année pour participer à la fête. Voilà. Bon, cette année, voilà l'histoire du prix qui est assez ahurissante. Le jury se réunit et il choisit d'accorder le prix à un journal tenu par une femme du peuple, autodidacte. Le sujet du journal, c'est simplement de raconter sa vie quotidienne. C'est un petit côté littérature populiste. Enfin, ça serait de la littérature populiste si c'était écrit par un lettré. Mais c'est un document. Et il paraît que ce document était saisissant, qu'elle montrait bien l'enfermement, la répétition de sa vie, l'absence de communication, en particulier avec son mari et avec son fils, etc. C'est un document saisissant. Alors que se passe-t-il? On prévient l'heureuse élue et elle refuse le prix. Pas question. Pas question parce que son mari n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant qu'elle ait tenu le journal, et encore moins, bien sûr, qu'elle l'ait envoyé. Et alors, l'idée que ça allait être publié, bon, alors, pourquoi avait-elle envoyé son texte? C'est pas elle qui avait envoyé son texte. C'était son curé. Qui avait dit, c'est vachement bien, il faut l'envoyer, qu'il avait poussé à l'envoyer. Mais il s'était pas rendu compte que l'une des conditions du concours, c'était que puisqu'il avait le prix, était publié. Puis il pensait même pas qu'il aurait un prix. Bon. Donc, elle a refusé le prix. Le texte n'a pas été primé, il ne sera pas publié. Elle a dit, peut-être dans quelques années, mais mon mari ne sait rien, enfin, sa vie était fichue. Alors le jury était obligé de se réunir une seconde fois pour choisir un autre vainqueur. Et il a choisi, ça va vous, comme ça vous allez voir le genre de textes qui sont primés. Là, il était embarrassé parce que visiblement, ce texte-là était éclatant, c'était évident qu'il était très beau. Après, ils étaient moins sûrs, donc ils en ont choisi deux. Donc il y a eu deux ex aequo. L'un qui était accordé à une jeune fille qui avait envoyé des lettres à sa famille pendant qu'elle suivait une cure de désintoxication de drogue. Ses états d'âme, sa vie s'est vue sur le monde, et puis ce qui lui arrivait, il paraît que c'était très bien aussi. Et cette jeune fille donc écrivait pendant la cure, elle arrêtait la cure, elle est rentrée dans la vie normale, tout à fait normalement, et 6 mois après, elle s'est suicidée. Et c'est sa mère qui a réuni les lettres, qui les a tapées, montées, qui les a envoyées pour l'archive. Ça me paraît très, très dur. C'était cette année, la mère était là, elle était sur la scène, sur l'estrade du village. C'était absolument horrible à voir et à entendre. Bon. L'autre prix avait été donné à un paysan sicilien qui avait né dans les années 1910 et qui, après la Seconde Guerre mondiale, avait émigré aux États-Unis. Et là, avait pas mal réussi. Il avait écrit ses mémoires en italien pour raconter sa jeunesse pauvre en Sicile. Ça marche bien puisqu'ils arrivent à faire publier les livres, qu'ils ont une salle splendide dans la mairie de Piede Santo Stefano qui est une bibliothèque ouverte à la consultation. Donc tous les textes, maintenant il y en a plus de 1000, c'est très bien organisé, sont ouverts à la consultation publique. Et il y a des gens qui viennent les lire, en consulter, en particulier des journalistes qui viennent, on consulte souvent Saverio Tutino, les journalistes qui disent, ben, je sais pas, je fais une enquête sur la drogue, dans ton archive, t'as pas des témoignages de drogués, on cherche dans le fichier, bon. Et aussi, alors, des chercheurs universitaires qui viennent faire des thèses ou des recherches sur l'écriture autobiographique à partir de tous ces documents. Et ça pose des problèmes dont les gens n'ont pas nettement conscience, qui est que n'importe qui a le droit d'exposer sa vie privée, s'il veut. Bon. Mais est-ce que vous avez le droit d'exposer la vie privée des autres? Supposez, je tiens mon journal intime, puis je décide, je dis, vérité, vérité, Philippe le Jeune tout nu, je vous livre tout, etc. Bon, formidable. Mais il se trouve que quand je livre mon journal intime, je vis pas tout seul. je vais livrer une douzaine de personnes avec moi qui ont absolument pas envie qu'on les mette à nu sur la place publique et qui peuvent d'ailleurs ensuite intenter un procès pour atteinte à la vie privée. Ça pose des problèmes très délicats. Et Saverio Tutino est quelqu'un qui a une grande expérience de la vie. Donc c'est lui qui est à l'arrivée des manuscrits. Donc, il regarde ce qui arrive. C'est pas lui qui trie les manuscrits. Mais il regarde, il ouvre les enveloppes, il regarde ce qui arrive. Il jette un coup d'œil sur toutes les choses qui arrivent. Avant de les donner à la commission locale de lecture. Et alors, par exemple, il peut arriver qu'il trouve dans l'enveloppe des textes qui sont des textes, en fait, de dénonciation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa plume, il prend une autre enveloppe de même taille, et il renvoie le texte, en expliquant que ce texte paraît pas, pour des raisons de contenu, paraît pas adapté à ce mode de procédure. Voilà. Il sait bien, il n'est pas bête, ça veut dire. Il y a des risques. Il faut essayer de les limiter, mais il ne faut pas renoncer à une entreprise pareille parce qu'il y a des risques. Quand vous proposez une expérience de ce genre à un dépôt d'archives publiques, qui a des responsabilités, il pousse des cris épouvantables. C'est pour ça que jamais. Vous êtes toujours couvert. Alors effectivement, là, il y a du découvert, il y a des risques, il y a des imprudences, il y a du possible. Bon. Mais c'est la condition nécessaire pour que quelque chose de vivant se passe. Quand je raconte l'expérience de Tutino à des Français, ils me disent « ça c'est impossible chez nous ». Moi, je suis pas du tout persuadé. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas essayé et que le même raisonnement se tenait en Italie avant. Avant Tutino, personne croyait à son truc. Il a essayé, ça a marché. Dans des cadres un peu différents, mais par exemple, sachez que en Norvège, vous voyez la bouillonnante Italie, vous devez imaginer que le tempérament norvégien n'est pas le tempérament italien. En Norvège, deux chercheurs d'université, anthropologues, sociologues, ont lancé dans la population norvégienne un concours d'autobiographie. Et en demandant aux gens, même pas d'envoyer des autobiographies qu'ils auraient déjà écrites, mais d'écrire pour eux leur autobiographie. Ça a marché, ils se sont bien pris et ils ont recueilli 600 textes. C'était ahurissant, moi, Donc, ces choses-là, on croit qu'elles marchent pas tant qu'on les a pas essayées. Et s'il y a des spécificités culturelles, il y a des différences entre les différents pays d'Europe, mais c'est même relativement homogène. Et que l'énorme opposition, c'est entre l'Europe et les États-Unis. Où le comportement envers l'écriture intime est complètement différent, beaucoup plus décontracté, naturel, acceptant. Nous, on fait des tas d'histoires avec nos secrets, nos chichis, etc. Et là-bas, le journal intime, je vous ai apporté, si ça peut vous amuser, des manuels. Faites Keeping Your Personal Journal, ou bien The New Diary, How to Use a Journal for Self-Guidance and Expanded Creativity. Comment vous servir d'un journal pour diriger votre personnalité et épanouir votre votre créativité, etc. Bon. Il y a des ateliers de journal intime. Voilà par exemple Diarist Journal. Un journal où vous envoyez des extraits de votre propre journal intime et il n'y a que ça dedans. C'est des journaux intimes des gens. Bon, c'est tout à fait américain. C'est un type qui dirige, qui est journaliste, dans un petit bled de Pennsylvanie qui s'appelle Lansford. Bon, il est rédacteur d'un journal local. Et il a lancé ce truc-là en se disant, mais il doit y avoir un marché pour ça. Bon, c'est un journal qui fait tout lui-même chez lui. C'est une entreprise qui... Il y a un homme, c'est tout. Le courrier, c'est lui qui tape, qui compose le journal, qui fait les... Alors ça fonctionne par abonnement, qui fait toutes les bandes d'adresses, qui... Il a actuellement 625 abonnés, dont moi. C'est intéressant. Mais je termine avec Tutino. Tous ces textes sont en italien et je lis pas l'italien. Moi, je ne pouvais pas exploiter ce dépôt d'archives, qui était vraiment exactement ce que je souhaitais pour mon étude. Mais j'ai trouvé l'équivalent en France. Donc ça peut exister, vous allez voir. Le truc, donc, moi j'aurais dit, si on m'avait dit que ça existe, j'aurais dit que c'était fou, que c'est pas possible qu'un truc pareil existe. Donc j'ai lu, c'était en 87, un article dans Le Monde, un article qui s'appelait « 100 000 textes d'adolescents ». L'article expliquait que à Orléans, dans un vieux presbytère, dans un grenier, il y avait 100 000 textes d'adolescents et beaucoup de journaux intimes d'adolescents qui avaient été envoyés par des adolescents à une association laïque, mais d'inspiration catholique, qui s'appelle « Vivre et l'écrire ». Que feriez-vous dans ce cas-là? Je prends ma plume, mon téléphone, ma voiture, je fonce, j'y vais. Et alors, 100 000 textes peut-être, 100 000 journaux intimes, non. Peut-être une centaine. C'est déjà énorme, c'est gigantesque. L'idée qu'il y a... Cette association Vivre et l'écrire a été fondée par un prêtre qui s'appelle Pierre de Givenchy, qui est, je crois, aumônier de lycée, qui s'intéressait à la culture des adolescents. Et alors, lui, il avait constaté que c'était bizarre que le niveau officiel des élèves baissait quand ils étaient en classe, mais quand ils n'étaient plus en classe, ils arrivaient à écrire des trucs vraiment pas mal du tout. Et qu'il y avait quand même problème. Bon. Donc, il a décidé d'essayer d'encourager et de valoriser les écrits, je dirais, spontanés des adolescents, de les recueillir, de les publier. Alors, il a fait des collectes à l'occasion d'animations d'écriture. Il a fait des collectes de textes d'adolescents et il en a fait des montages qu'il a publiés en livres. Il y a donc une série de livres, une dizaine, qui ont été publiés essentiellement chez Desclés de Brouwer et aux éditions de la Découverte, qui sont des montages de textes d'adolescents. C'est des sortes de livres collectifs sur des thèmes, donc on peut autour de thèmes. En même temps, il s'est aperçu que les adolescents ont souvent besoin de communiquer. Ils écrivent, ils voudraient dire quelque chose à quelqu'un, ils voudraient qu'on les écoute, on ne les écoute pas, et donc il a proposé aux adolescents des correspondants. Tu en as gros sur le cœur, tu veux parler de toi, tu veux poser des problèmes, tu ne sais pas, etc. Nous pouvons t'écouter, écris-nous, nous te répondrons. Donc par l'intermédiaire des livres, de tracts, etc., d'animation, répandu cette offre. Et effectivement, depuis une quinzaine d'années, des adolescents écrivent à Vivre et l'écrire en disant « Donnez-moi un correspondant adulte », que en général l'adolescent ne rencontrera jamais, ne connaîtra jamais, mais qu'il va pas le prendre en charge, mais accepter de lui répondre. Donc ça continue. Actuellement, il y a un groupe d'à peu près l'ordre de 70-80 adultes à Vivre et l'écrire qui prennent en charge des correspondances avec des adolescents. Chacun n'en prend qu'un tout petit nombre, je dirais peut-être 2, 3, 4. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'occasion de ces relations nouées, de ces correspondances qui en fait tenaient lieu de journal, il est arrivé que les adolescents par ailleurs tenaient un journal. Une fois, un adolescent a dit à son correspondant « J'ai mon journal, mais maintenant j'en ai plus besoin et je vais le détruire. » Et le correspondant a dit « Bah, c'est idiot, le jette pas, tu regretteras plus tard. Donne-le-moi, confie-le-moi, je te le garde. Et tu le reprendras plus tard. Si tu veux que je le lis, je peux le lire. Si tu veux que je ne le sais pas, je ne le lirai pas. » Bon, ça s'est produit comme ça une fois. Puis après, ils ont eu l'idée de généraliser la chose et de lancer un appel aux adolescents, à tous les adolescents de France. Tu es sur le point de jeter ton journal intime. Tu le regretteras plus tard. Ne fais pas ça. Mets-le en consigne chez nous. Et tu le reprendras plus tard si tu veux. Si tu veux pas qu'on le lise, on le lit pas. Si tu veux qu'on le lise, on le lira, mais avec respect. Alors c'est ça le genre d'annonce auquel moi j'aurais jamais répondu, jamais j'aurais confié, surtout jamais à un prêtre, je suis extrêmement anticlérical. Bon. Mais un certain nombre d'adolescents le font, et donc il y a maintenant un fonds de journaux intimes. Alors, naturellement, ces journaux intimes, certains sont ficelés avec du scotch, faut pas les lire, d'autres sont au contraire ouverts, on peut les lire, mais qui peut les lire? Alors, ben, le correspondant, Pierre de Givenchy, des gens de l'association, ou des gens à qui il les confierait. Donc je suis allé, j'ai demandé si je pouvais lire. Ben, normal, puisque mon but c'est d'en lire, même pour pouvoir les étudier. Bon, donc j'ai passé des journées à regarder, à feuilleter, à choisir. Alors moi j'en ai étudié un journal intime d'une jeune adolescente qui était en 8 cahiers, 15-18 ans à la tranche. Et vous verriez Vivre et l'écrire, c'est un grenier avec des trucs... partout, on ouvre une caisse, etc. Ça ressemble pas à un dépôt d'archives. C'est pas un dépôt d'archives, c'est pas ouvert au public, etc. Bon. Je suis allé en lire là-bas, puis finalement, j'en ai rapporté chez moi. Ahurissant comme procédure, le journal intime de cette jeune fille, je l'ai pris, je lui ai dit, écoutez, prenez-le, vous n'avez pas le temps de lire là. Finalement, je l'ai gardé un an chez moi. J'y ai étudié une chose. Dans ce journal, je l'avais choisi. D'abord, il était extrêmement intéressant, bien, puis la fille était très sympathique. Son journal était illustré, comme très souvent des journaux d'adolescents, mais à des degrés divers. Des photos, des tickets de cinéma, des petites fleurs, des bouts de lettres, etc. C'est pratique, très, très courant. Mais là, il y en avait beaucoup. La reliure craquait un peu. Donc c'était des objets qui étaient un peu spectaculaires et assez émouvants. L'objet de mon étude, ça a été d'étudier le système d'articulation entre le texte et les objets qui étaient dedans, qui était le rapport. Après avoir choisi ce journal, ayant commencé à l'étudier, je me suis dit... Et ça devait aboutir à une publication. Mon étude a été publiée dans une revue. Donc, je me suis dit, il faut prévenir. Il faut tout de même demander l'autorisation. Cette jeune fille avait légué son journal à Vivre et l'écrire avec une lettre dans laquelle elle demandait que son journal soit lu et exploité. Elle disait simplement qu'on en fasse ce qu'on veut, mais simplement qu'on change les noms. mon histoire peut intéresser d'autres adolescents, ça les aidera à vivre. Donc, elle l'avait fait dans un but de communication. Mais comme je vous disais tout à l'heure, souvent, on dit ça et on ne se rend pas compte des conséquences, d'une part. Et d'autre part, on dit ça à un certain moment de sa vie. Et rien ne dit qu'on soit toujours du même avis. 8 ans après, on a pu prendre notre vue sur les mêmes événements. Et là, par exemple, j'ai tremblé parce que dans le journal intime de cette jeune fille, elle était trop grosse. Il y avait sa photo sur la première, comme décoration. La photo était collée sur le premier cahier. Où là, elle avait 13-14 ans. Bonne grosse fille, sympa et tout. Mais effectivement, pas une pin-up. Bon, pas le modèle. C'est un très gros problème. Alors, elle mangeait trop. Si bien que dans le journal, il y avait sa courbe de poids en particulier, avec où elle garantissait qu'elle trichait pas, d'ailleurs. Et il y avait des choses qui étaient collées comme des avertissements. On ne sait pas, d'ailleurs, c'était des avertissements ou des tentations. Quand elle avait mangé des gâteaux, par exemple, des galettes bretonnes, elle découpait un bout du paquet, elle le collait dans le journal. Donc son problème était qu'elle se trouvait pas belle et qu'elle pensait qu'on ne la trouverait pas belle, qu'elle n'arriverait pas à se faire aimer. Et elle était tombée amoureuse d'un jeune homme qu'elle a aimé d'abord en silence, et puis pas tellement en silence, parce qu'une des choses qui m'a frappé aussi dans la lecture des journaux adolescents, chose que j'imaginais pas d'après mon propre journal d'adolescent, c'est à quel point les jeunes filles ou les adolescentes en milieu scolaire sont peu discrètes avec leur journal. La manière dont on fait circuler les journaux, dont on les montre aux copines, au moins une certaine phase, où on laisse des pages dans le journal pour que la copine de cœur écrive dans votre propre journal, où on prête son journal. Pour les vacances, je te prête mon journal de cette année, alors on prend un autre cahier soi-même pour continuer pendant qu'on a prêté le cahier précédent à la copine. Il y a donc une convivialité des journaux. Moi, c'était secret. Jamais au moindre copain, j'aurais montré quoi que ce soit. Donc ses amours n'étaient pas secrets parce qu'elle en parlait à tout le monde, etc. C'était tous ses copines. Alors, il t'a vu, tu l'as vu, etc. Mais l'autre ne la connaissait même pas. Et ce que racontait le journal, c'est l'histoire d'une belle histoire d'amour. Finalement, elle est arrivée à entrer en relation avec lui et elle est arrivée à se faire aimer de lui. Et semble-t-il, Pierre Gilachi m'a dit, maintenant elle est mariée, elle a 2 enfants. Mais la question, je savais pas, c'est au fond, j'arrivais pas à voir vraiment si elle était mariée avec le garçon. Parce que, après tout, il y avait pu avoir d'autres épisodes après. Je sais pas, le journal s'arrêtait à 18 ans et, donc j'ai fait demander par Pierre de Givenchy à cette jeune fille si elle était d'accord pour qu'on utilise son journal. Alors elle a dit qu'elle était d'accord, mais en fait, moi j'avais tout de même des... c'est vrai, c'est un problème, le cœur un peu barbouillé, cette idée-là. C'était délicat en même temps d'écrire une étude, de publier, même si je change le nom. Bien sûr, j'ai changé les noms et les détails qui peuvent identifier, mais il reste. J'imaginais au fond que pour elle, lire une étude qui est ce genre de discours qui soit tenu sur elle, était une expérience qu'elle avait sûrement pas prévue, et qui peut-être était pas agréable, d'être pris comme un objet, un cobaye, d'être en même temps, maintenant, 10 ans après, d'être confronté à son adolescence par l'intermédiaire de quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Ça peut ne pas être agréable. Elle a oublié le contenu de son journal. Elle a même dû être surprise en lisant les détails que j'avais remarqués, la manière dont je parlais. Et une autre... je travaille dans une petite équipe de recherche à l'université de Nanterre, et une autre de mes collègues de ce groupe de recherche est allée à Orléans, et elle a fait une étude sur les structures d'ensemble de 7 journaux d'adolescents. Elle a pris 7 journaux et essayé de voir leur système de composition. Donc, si vous voulez, on a commencé à travailler sur ce corpus. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon livre? Alors, il n'y a rien de tel, il n'y a pas un gramme de journal intime dans mon livre. Puisque mon livre, en fait, est fait avec la seconde méthode. Ça, c'est la première méthode, aller voir l'objet lui-même, puis se commencer à réfléchir sur l'objet. Et la seconde méthode, c'est interroger les acteurs sur leur pratique, interroger les gens qui tiennent un journal intime sur la manière dont ils font leur journal intime. Alors, cela, j'ai pensé que c'était beaucoup plus facile, et effectivement, je peux avoir une information beaucoup plus réduite, mais beaucoup plus large, comme vous allez voir. D'abord, je me suis dit, je vais faire une enquête par questionnaire. Alors, j'ai fait une enquête par questionnaire, d'ailleurs, je continue actuellement à faire une enquête par questionnaire. Il tient sur une page recto verso, avec 16 questions. Ça, vous verrez immédiatement l'enjeu. Sondage sur la pratique du journal personnel, on demande aux gens leur année de naissance, s'ils sont masculins ou féminins, leur activité professionnelle, pour les situer. Après, question 1. Avez-vous tenu dans le passé un journal personnel? Oui, non. Question 2. Si oui, précisez quand et combien de temps. Question 3. Tenez-vous en ce moment un journal personnel? Oui, non. Si vous avez répondu non à la fois aux questions 1 et 3,
passer directement à la question 13.
Et ça fait un petit peu jeu, hein, vous savez, le livre dont vous êtes le héros, ou etc. Et en même temps, c'était une procédure, j'en ai pas trouvé d'autres, qui est un peu désinvolte pour les gens qui tiennent pas de journal intime, parce qu'on leur dit, bah, alors là, vous tenez pas de journal intime, alors le reste, ça vous concerne pas, vous tournez tout de suite la page, aller au bout. Et encore une question de rattrapage pour vous à la fin, mais le gros de ce questionnaire ne vous concerne plus. Mais c'est difficile de faire autrement. Alors, ceux qui ont répondu oui pour autrefois, ou pour aujourd'hui, ou pour les deux, alors, je les cuisine avec des questions plus précises. S'agissait-il plutôt d'un carnet de bord, ou d'une chronique factuelle, ou plutôt d'un journal intime ? Précisé. Question 5. Quelle en était ou en est la périodicité ? Question 6. De quel support vous servez-vous ? Cahier, carnet, agenda, feuille volante ? Question 7. Votre journal comporte-t-il d'autres éléments que l'écriture quotidienne ? Poèmes, notes, dessins, photos, lettres, documents, etc. Question 8. En quel endroit le conservez-vous ? Ben, j'ai eu des réponses. Ça vous regarde pas. C'est un secret, si je vous le dis, ça sera plus secret. 9. En fait, la question 9 était pratiquement celle qui était la plus intéressante. Comment vous est venue l'idée de le commencer ? Dans mon questionnaire, il n'y a aucune question directe sur la motivation. Mais j'ai jamais demandé aux gens pourquoi vous tenez un journal intime ou à quoi c'est. Mais j'ai essayé de poser d'autres questions à l'occasion desquelles ils seraient amenés éventuellement à y répondre. Et la question 9 a été d'un excellent rendement. Puisque comment vous est venue l'idée de le commencer ? En fait, ça cache deux sous-questions et souvent les gens répondent aux deux ou à l'une des deux. Et deux sous-questions, c'est quelle est la circonstance ou l'élément déclencheur ? Et l'autre, quel est le besoin que vous avez essayé de satisfaire ? Voilà. Question 10. Vous arrive-t-il de relire votre journal ? Alors, chaque fois que vous écrivez, parfois, rarement, jamais ? Question 11. Vous est-il arrivé de le faire lire à quelqu'un ? Si oui, précisez éventuellement à qui et pourquoi. Question 12. Vous est-il arrivé de détruire, partiellement ou totalement, votre journal ? Si oui, précisez éventuellement pourquoi et comment. Alors là, on arrive à la question 12. C'est la fin du questionnaire pour les gens qui tiennent un journal. On trouve deux questions à ce moment-là, la question 13 et 14, qui sont pour les malheureux qui ont été éliminés au début. Alors, ils ont leur question de rattrapage qui est la suivante. Question 13. Vous n'avez jamais tenu de journal personnel. Vous est-il arrivé pourtant d'en avoir l'idée ou l'intention ? Ils peuvent se rattraper. Aucun questionnaire n'est neutre. Il est évident que le fait de faire un questionnaire sur le journal implique que celui qui fait le questionnaire trouve que le journal a une valeur. Donc les gens qui vont répondre non vont se trouver dans une sous-catégorie. Ce sont des sous-êtres humains. Mais enfin, il leur sera beaucoup pardonné si l'idée leur est venue. Et question 14, si oui, qu'est-ce qui vous a retenu de réaliser cette idée ou cette intention ? Passer de ci-dessous à la question 15, alors finalement, et tout le monde se retrouve, les bons et les méchants se retrouvent à la question 15 et 16, qui sont pour tout le monde, et qui sont une question beaucoup plus générale, portant sur l'écriture, les pratiques d'écriture en général. Avez-vous déjà pratiqué, pour votre plaisir, une des formes d'écriture suivantes ? Si oui, cochez la case correspondante, et indiquez approximativement en face quand et combien de temps. C'est un petit côté confessionnal, n'est-ce pas ? Ah, vous avez fait ça combien de fois, mon fils ? Alors, les péchés sur lesquels j'interrogeais, c'était poésie, chanson, récit de fiction, nouvelle, conte ou roman, récit d'ensemble de votre vie, souvenirs d'enfance, autres, précisés. Et puis, question 16, avez-vous entretenu une correspondance suivie avec quelqu'un, relation familiale, amicale ou amoureuse ? Oui ou non ? Voilà donc ce questionnaire que je vous ai lu intégralement. Naturellement, je ne l'ai jamais proposé à des individus, mais toujours à des groupes de lycéens, des groupes d'étudiants. Je l'ai proposé, plutôt fait proposer par des amis ou collègues. Des groupes de professeurs, quand il m'est arrivé d'en avoir sous la main, parce que je fais des stages, il m'arrive de faire des stages de formation de prof. Et là, on a un public captif et qui ne peut pas refuser de remplir un questionnaire. Alors, on en profite lâchement. Bon, je l'ai fait aussi dans l'université interâge de ma commune. Il y a un collège universitaire dans ma commune, à Fontenay-aux-Roses. J'ai pu avoir un jour un public de gens qui étaient à la retraite. Donc, c'était tout à fait hétéroclite et mes échantillons n'ont absolument aucune valeur. Ce n'est pas une enquête sérieuse. Hein. Mais c'était une manière de débrouiller le problème, de voir ce qu'on allait me répondre. Bon, et ça aboutit à une publication que voilà, qui n'est pas le livre pour lequel je viens. En fait, pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant, l'enquête aboutit à ce livre dont je vais vous parler maintenant, et à ça qui est beaucoup plus austère. Il s'appelle « La pratique du journal personnel enquête », qui est le dépouillement des 570 questionnaires, et qui est en même temps une synthèse sur les enquêtes qui ont existé sur le sujet. J'ai fait une enquête sur les enquêtes aussi. Et alors sachez que le ministère de la Culture a fait une enquête sur les pratiques culturelles des Français, il en fait une tous les 7 ans, et que la dernière, qui a été faite en 88, et dont les résultats ont été publiés au mois de mars cette année à la Documentation française, comportait par miracle une question sur le journal, c'est une nouveauté, ils avaient mis en plus ajouté une question sur le journal. J'étais fou de joie, je me suis précipité et j'ai demandé à pouvoir exploiter cette question, la croiser avec d'autres, etc. J'ai pu faire joujou avec leur enquête, tripatouiller. Il y a donc, à côté de mes résultats qualitatifs qui sont très intéressants, je trouve, mais pas représentatifs sur le plan quantitatif, j'ai les résultats de l'enquête du ministère de la Culture qui sont quantitativement très intéressants, même s'ils sont, il faut dire, d'une indigence totale. Puisque la question c'est, est-ce que dans l'année, vous avez tenu un journal ou pris des notes ? Alors ensuite, je vais pouvoir savoir si dans les sous-préfectures, on en tient plus que dans les préfectures, si à 15 ans, on en tient plus qu'à 70 ans, etc. Mais il reste que la question de départ est extrêmement à la fois vague et pauvre. Hein. Alors le résultat, sachez-le, c'est que 7% de la population française répond oui à cette question. La population au-dessus de 15 ans. L'avantage, c'est que allez demander au ministère de la Culture quel est le prix de l'enquête. Enfin, je vous dis ça parce que quand il s'est agi simplement d'interroger la base de données, moi je suis allé travailler sur la base de données, j'ai failli payer l'interrogation. J'étais ruiné, bon. Simplement pas pour faire l'enquête, pour l'utiliser. Hein. Mon enquête a des limites, mais elle n'a pas coûté un sou. Elle a coûté juste ce tirage du papier. Le problème, on ne peut pas faire l'enquête à des individus isolés, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on prenne, qu'on administre le questionnaire à des groupes qui sont déjà constitués en dehors de l'enquête. Donc une classe n'est pas réunie pour l'enquête, elle est réunie pour un autre projet, alors on a là une population qui se trouve là par hasard, et qu'on prend comme elle est. Bon. J'ai cette facilité dans l'univers scolaire, je ne l'ai pas dans le monde du travail. Mais mon enquête, vous allez voir, au fond, n'est pas biaisée. Autant qu'elle paraît, a priori. C'est que j'ai un point de repère tout de même, qui est l'enquête du ministère de la Culture, parce qu'elle, elle porte sur l'ensemble de la population française, l'histoire des 7%. Hein. Ça a été fait sur 4900 personnes avec des systèmes de compensation, etc. Enfin, comme vraiment une vraie enquête. Hein. Bon. Elle porte sur l'ensemble de la population française. Et donc, elle me permet déjà de situer mon échantillon. Bon. Or, il se trouve qu'effectivement, j'ai interrogé au fond surtout des gens entre 15 et 25 ans. Surtout des gens qui étaient scolarisés, même presque exclusivement. Or, il se trouve que c'est effectivement dans cette tranche d'âge et dans cette zone sociale qui s'écrit le plus de journaux intimes. Donc en faisant mon enquête sauvage qui n'est nullement représentative dans ce milieu-là, je touche tout de même les gens qui ont le plus de pratiques. Alors mon enquête sur le plan sociologique n'a aucune valeur. Mais si mon but est d'obtenir une information qualitative sur les différents modes de pratique, les modalités, etc., il se trouve que je suis dans la population qui aura beaucoup plus de chances de répondre oui, donc ensuite de répondre toutes les questions sur les modalités. Donc, de m'apporter le plus d'informations. Quand j'ai fait cette enquête, je ne la concevais pas comme une enquête, je la concevais comme une pré-enquête. C'est-à-dire que je me disais qu'il fallait faire comme ça, pour savoir ensuite comment construire le bon questionnaire. Questionnaire qu'ensuite, dans ma naïveté, je voyais bien que moi je ne pourrais pas le faire, mais que je transmettrais à un organisme officiel qui lui pourrait l'appliquer à grande échelle. Ça, c'était intentionnel. L'autre, ça s'est fait par hasard. Et en fait, c'est ce qui est devenu vraiment un livre qui a été fait par hasard. Ayant à faire un article pour le magazine littéraire en 88, le magazine littéraire faisait un numéro sur les écrits intimes. Et le directeur du magazine littéraire me téléphone pour me demander si je veux faire la préface de son numéro. Et je lui fais décrire ce qu'il y a dans son numéro, et il m'explique que ça couvre toute la littérature française, toute la littérature mondiale, etc. Tous les écrits intimes des écrivains. Alors je lui dis que c'est très bien, mais je ne veux pas faire la préface de son numéro, parce que, étant donné mes vues démocratiques, les écrits intimes des écrivains me semblent une chose trop particulière, et que ce qui est intéressant, c'est l'écriture de tout le monde, et je lui propose à la place de ne pas faire la préface du numéro, mais de faire dans le numéro un article sur mon enquête, et sur l'écriture du journal intime par monsieur tout le monde, monsieur, madame, mademoiselle tout le monde. Il accepte, j'écris l'article, j'intitule cet article « Cher cahier », Ah, cher cahier, si tu savais ce qu'ils m'ont encore fait aujourd'hui, oui, etc. Bon. J'y décris l'enquête par questionnaire, je décris surtout ce que je vois des pratiques générales du journal, et à la fin, je mets une petite phrase que je vais vous lire. Cette enquête est en cours, vous pouvez y collaborer en m'envoyant votre témoignage sur votre pratique du journal personnel. Adressez-le-moi au bon soin du magazine littéraire qui transmettra merci. Donc c'est pas un placard, une annonce, c'est une phrase. Donc c'est supposé que les gens aient lu l'article et qu'ils soient arrivés jusqu'à la dernière phrase. Bon. Je me suis dit, je vais pas recevoir de réponse. Je vais toujours mettre ça à tout hasard, j'aurai peut-être des témoignages. Hein, bon. Et en fait, l'histoire, c'est que d'une certaine manière, ça a marché. Des gens m'ont écrit, c'était une expérience très curieuse. Moi, c'est la première fois de ma vie que je recevais des lettres d'inconnus dans ma boîte à lettres. Et chaque enveloppe était une aventure. Bon, on ouvrait, puis on ne savait pas avec qui on allait être en contact, ce que les gens voulaient même. J'ai répondu à tous mes correspondants, bien sûr, en leur expliquant ce qu'était mon enquête, et puis en leur parlant de leurs lettres. Des lettres où j'avais vraiment l'impression que les gens étaient allés au bout de ce qu'ils voulaient dire. Là, c'est une question d'intuition, d'instinct, qui d'ailleurs peut parfaitement se tromper, que donc ça n'avait pas de sens de leur poser des questions supplémentaires. Ça n'empêche pas que j'en répondais. En revanche, pour beaucoup d'autres lettres, c'est que la majorité des lettres, j'avais l'impression que la lettre était une première étape. Puis, alors moi, en tant que lecteur, j'avais des questions. J'avais envie, d'un nombre de points, le désir d'en savoir plus. Donc je manifestais mes questions et mes correspondants étaient libres de répondre ou de pas répondre. Ils ont presque tous répondu, mais pas tous. Il y en a qui ont abandonné. Et il y a des échanges qui ont duré 2 ans, puisqu'en fait, entre l'appel du journal et la publication du livre, il s'est écoulé à presque 2 ans. J'étais pas préparé à ça. J'ai bricolé, improvisé la conduite. C'est très difficile parce que les gens qui répondent à mon enquête, ils ont parfaitement raison, attendent quelque chose de moi. En fait, ils manifestent une demande, mais que j'ai provoquée et que d'une certaine manière, il faut que j'essaie de satisfaire. Je ne savais pas quoi faire de ces correspondances. Elles étaient passionnantes, les gens m'ont répondu, etc. Je me suis aperçu que je ne pourrais jamais rien en faire parce qu'il était impossible de faire des commentaires sur des gens qui m'avaient accordé leur confiance, etc. Et que moi, je ne pouvais pas ensuite aller faire des commentaires, les classer, les étiqueter, les commenter, les critiquer, dire que ça me plaisait, ça ne me plaisait pas, ou interpréter. Tenir un discours autre sur eux. C'était pas possible. Donc j'étais paralysé. C'est pour ça que je me suis dit que ce discours qui m'était interdit, puisque j'étais le destinataire des lettres, il n'était pas interdit aux autres. Donc mon travail consistait à faire suivre les lettres au grand public ou à d'autres spécialistes qui pourraient être intéressés, qui eux pourraient réfléchir librement sur ces lettres. Mais moi, il y avait une espèce de contrat moral passé avec les correspondants qui faisait que je ne pouvais pas exploiter leurs lettres. D'où l'idée de les publier, de leur laisser la parole, de publier toutes les lettres. Et sans aucun commentaire. Donc dans le livre, il y a simplement une préface qui explique l'enquête. Les lettres, toutes leurs lettres, aucune de mes lettres. J'ai demandé, d'accord, hein, et il y a une seule personne qui a refusé. Et il y a des lettres que je trouve très faibles, pas intéressantes. Il y en a 2 ou 3, si j'avais eu à choisir, peut-être, je ne dirais pas lesquelles. Mais une autre personne pourra ces d'autres lettres. J'ai dit que je ne devais pas intervenir, je devais tout publier. Ne pas mettre mes propres lettres, qui était d'ailleurs très répétitive, et je pense que le lecteur devine le contenu de mes lettres, d'après les réponses qui sont faites. Donc il y a les lettres des 47 correspondants, après il y a un épilogue, j'ai donné à lire l'ensemble des lettres à 3 des correspondants, pour leur demander leur avis. Mais au début c'était pas du tout pour le livre, c'est parce que c'était des gens qui j'avais beaucoup de confiance, et j'avais besoin de m'entourer d'avis sur ce que je faisais, donc je leur ai donné à lire, et ils m'ont répondu, et j'ai vu que leurs lettres en fait étaient très intéressantes, elles étaient à la conclusion du livre. Donc j'ai mis leurs lettres, avec leur accord, à la fin. Et après, il y a un index des matières, un index analytique des matières. Et j'ai pensé que la seule forme de commentaire que je pouvais faire sur les lettres, c'était de classer entièrement toute l'information qui venait dans le livre. Je fais une analyse de contenu, et là, il y a des fiches, et mon index est une interprétation. Mais c'est une interprétation, il se donne pour descriptif, mais bien sûr, il est une interprétation, mais une interprétation qui respecte les textes. On peut ne pas lire un index. Elle est discrète, elle est respectueuse, et elle a tout de même un caractère informatif. Il m'a semblé donc que c'était le moyen de proposer ma lecture. J'ai été frappé par la qualité, l'intérêt des textes. Mais il est évident que ce sont surtout des gens qui ont fait des études supérieures. Hein. Mais on revient, si vous voulez, à ce problème, c'est que c'est vrai, et qu'en même temps, l'objection, qui est tout à fait parfaitement légitime, elle s'adresse pas seulement à mon corpus, elle s'adresse à la réalité. Et ce biais de mon corpus, il est plus biaisé que la réalité n'est biaisée. Il accentue les déformations qu'il y a. Mais il reste que cette déformation est la même, qui existe dans la réalité, simplement portée à un degré supérieur. Les enquêtes du ministère de la Culture le montrent, c'est indéniable. La même critique pourrait être faite pour ces journaux intimes qui sont à Orléans, chez Pierre de Givenchy, qui sont tous recrutés dans le milieu de l'Action catholique. Je veux dire, ça c'est évident, etc. Je veux dire, mais on le sait, on sait que c'est ça. Si on s'abstenait de travailler parce que l'échantillon a un profil particulier, on ferait plus rien. Si j'avais à faire une critique à mon enquête, je ferais cette critique de la représentativité sociale. Mais j'en ferais une autre, qui pour moi était presque aussi importante. C'est qu'en même temps, les gens qui répondent à ce genre d'appel, au fond, on peut penser qu'ils ont peut-être un profil psychologique particulier. Donc ça n'est représentatif ni socialement, ni psychologiquement. Limite de l'observation, il faut le savoir simplement, il faut garder ça à la conscience. Alors, je vais terminer par la lecture. Au début, les réactions de mon entourage proche étaient extrêmement partagées. Les uns me disaient « Oh, c'est formidable ce que tu fais !» Les autres me disaient carrément « Arrête, c'est nul, ça n'a aucun intérêt !» Et je vais vous raconter très honnêtement les choses. J'ai présenté ce livre à deux éditeurs. Le premier, c'est les éditions du Seuil, qui est l'éditeur que j'avais l'habitude de fréquenter et chez qui j'avais publié d'autres livres, a eu la réaction d'une partie de ma famille. Philippe Lejeune, comme vous êtes tombé bas, bon, c'est pas possible de publier une chose pareille. Et le second m'a dit, oh, c'est merveilleux, je publie tout de suite. Voilà. La réalité de ce livre, c'est qu'il est entre les deux. Le livre lui-même est honnête, moyen, ne mérite ni cet enthousiasme, peut-être ni ce rejet. Hein. Une des raisons du rejet, c'était, mais quelque chose qui est lié au livre que j'avais publié avant, j'ai publié des livres de théorie sur l'autobiographie, qui sont vus comme des livres de théorie. Où est la théorie? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis en grève, c'est la décadence. Il ne peut plus penser maintenant. Il publie les lettres qu'il trouve dans sa boîte à lettres, voilà, c'est tout. Alors, j'ai essayé, à la fin de la préface, tout de même, d'abord de montrer l'enjeu du livre, c'est-à-dire les questions auxquelles les lettres devaient donner des éléments de réponse. Et la gamme des questions auxquelles moi je réponds pas, auxquelles les lettres ne répondent pas, enfin chaque lettre répond, mais l'ensemble des lettres, c'est à vous de voir comment pour vous elles répondent. Ce sont les questions suivantes. Écrit-on quand ça va mal ou quand ça va bien? Est-ce qu'après ça va mieux ou plus mal ou moins bien? Une question essentielle formulée en ces termes par mon avant-dernière correspondante. Le journal est une activité névrotique et maniaque ou une entreprise d'auto-éducation et d'autocontrôle? Est-il le mal, le remède, ou les deux à la fois? Donc une sorte d'homéopathie. Correspond-il, selon une idée courante, à une attitude nombriliste, ou à une attitude épicurienne ou stoïcienne, un art de vivre, une sagesse? Le journal encourage-t-il une écriture facile et lâche, ou est-il une sorte d'atelier où le style se forge en même temps que la personnalité? Quel rapport entretient-il avec d'autres formes d'écriture, activités périphériques et secondaires, ou noyaux de toute création? Alors ça c'est le débat chez les gens qui ont d'autres activités d'écriture. Mais où sont les limites du journal, puisqu'il peut s'incorporer poèmes, dessins, objets, documents les plus variés, est-ce même un genre? Le journal peut-il être sincère? N'est-il pas toujours auto-censuré et complaisant? Peut-il être vraiment secret? N'est-il pas toujours, au fond, recherche de communication, désir de séduction? Que se passe-t-il quand un journal intime est communiqué, par exemple dans un couple? Il y a des réponses là-dedans. Et que se passe-t-il quand il est surpris, par exemple, ça c'est le cas ultra classique, sûrement dans la salle, il y a une personne dont le journal a été surpris par sa maman. Il y en a partout. Les mamans ont l'air de passer leur temps à ça, à surprendre les journaux des petites filles. Alors, que se passe-t-il quand le journal est surpris, par exemple, par une mère? Pourquoi, comment conserve-t-on son journal? Pourquoi parfois le détruit-on? Et que deviendra-t-il si vous ne l'avez pas détruit après votre mort? D'où l'ultime question qui est suggérée par certaines lettres. Le journal a-t-il partie liée avec la mort et comment? Mais de toute façon, tout a partie liée avec la mort. Bon, c'est peut-être une question un peu emphatique. Je vais vous lire des échantillons très rapides de lettres. Petite fille, numéro 8. Une question que vous devriez me poser.
Alors je la pose pour vous, puisque vous ne pouvez la poser pas. Vous avez demandé si les gens étaient d'accord, mais aussi est-ce que les lettres sont anonymes ou pas. Alors ça, ça a été aussi un sacré problème. Les lettres dans le livre sont anonymes, le système adopté. Moi, je croyais que les gens auraient envie que leurs lettres soient anonymes, soient protégées et tout. Et là, c'est une des expériences de l'enquête, grave erreur, qui m'a d'ailleurs mis dans des situations très délicates. Je croyais que les gens voulaient être protégés, et en fait, alors, les gens, ils n'ont pas tous la même conduite, et il y en a qui ont été offensés de cette protection que je leur offrais trop automatiquement, parce que eux, ils voulaient que leur nom y soit. En fait, il y avait les deux motivations. Et donc, le système choisi finalement est un système à deux vitesses. Dans le livre, c'est anonyme, et à la fin, il y a une liste des noms pour les gens qui veulent être nommés. Donc là, numéro 8, c'est Claire Bouquerel. Elle a demandé à être nommée, donc à Claire Bouquerel, numéro 8. Je vais peut-être vous lire ces deux lettres. S'il y a deux lettres, ça va très vite. Donc cette jeune fille, Claire Bouquerel, a 14 ans et vit dans la région parisienne. J'ai envie les monsieur, cher monsieur. J'ai eu connaissance de votre article par l'intermédiaire de ma mère qui avait acheté le magazine. Mon nom est Claire Bouquerel, j'ai 14 ans. Je suis en classe de 3e et je tiens justement un journal intime. J'ai commencé ce journal au début de l'année 1987. Pourquoi ? Je crois que c'est tout simplement pour faire comme les autres adolescents. De plus, il y a l'influence de certains livres et films où le jeune homme ou la jeune fille tient un journal intime. Ce journal est dans un tiroir de mon bureau, ma mère en connaît l'existence, sait qu'elle ne doit pas le lire et respecte ceci. J'écris dans ce cahier pour moi-même et pour plus tard. Je ne le fais lire à personne et compte le garder pour, en le relisant dans peut-être 10 ans, me rappeler ce passage de ma vie. J'y raconte surtout mes sensations, mes impressions sur la société, sur ma vie avec les autres et ma vie solitaire. Je suis très indépendante. J'écris simplement, sans chercher à construire ni à rendre poétique mes phrases. Mais comme j'aime la poésie, sur des feuilles, dans un classeur, j'écris des poèmes, toujours pour moi-même. Je parle souvent de la mort, du désespoir, de la solitude et même de Dieu. « C'est ton âge !» me disent les personnes qui m'entourent. C'est pas très encourageant. C'est lorsqu'une amie m'a fait lire un passage de son journal que je me suis rendu compte que j'étais comme les autres. Moi qui croyais que j'étais seul à me poser ces questions, à être différente des autres. Comme vous l'avez dit, c'est souvent entre 14 et 18 ans qu'on tient un journal pour raconter sa vie. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on aime, on n'a plus le temps de l'écrire. Alors pour moi, adolescente, et pour tous les autres, je pense qu'il est difficile d'admettre qu'on se pose tous les mêmes questions, qu'on a tous les mêmes déceptions, frustrations. Mais on est bien obligé de s'en rendre compte. Et pourtant, je continue mon journal en attendant le bonheur. Pour compenser, je lis beaucoup et je vais au cinéma. Il n'y a que là que mes problèmes s'effacent. Je ne pense plus à ma vie banale. J'espère ne pas vous avoir trop déçu, mais ceci m'aura aidé à parler un peu, à faire le point. Merci. Voilà la première lettre. Je vais les mettre comme ça dans votre boîte à lettres. J'ai le cœur brisé d'émotion, de cette candeur, de cette confiance, de cette... Et aussi surpris qu'on me remercie. Moi, j'ai plutôt envie qu'on me remercie de m'envoyer des témoignages. Et ça, c'est une formule que je trouve dans un certain nombre de lettres. Les gens, à la fin de leur lettre, me remercient parce que ça a été pour eux une occasion de faire le point. À deux reprises, vous verrez dans d'autres lettres, ils mettent un post-scriptum en disant « D'ailleurs, j'ai recopié la lettre et j'en ai mis le double dans mon journal. » Donc la lettre elle-même figure dans le journal lui-même. Je vous lis numéro 9. Femme, 39 ans, professeur de collège, région parisienne. Je suis actuellement âgée de 39 ans. Je suis mariée, mère de 2 enfants, et j'enseigne les lettres classiques dans un collège. J'ai tenu un journal à proprement parler à 2 époques de ma vie. Oui, parce que alors, une chose qu'on voit, c'est qu'on tient des journaux à des époques différentes de sa vie, qui sont d'ailleurs souvent des journaux qui n'ont absolument pas la même fonction. Et il arrive aussi qu'on puisse tenir simultanément, vous allez voir, lettre numéro 10, plusieurs journaux en même temps, avec des fonctions, des niveaux d'engagement, des sujets différents. J'ai tenu un journal à proprement parler à 2 époques de ma vie. D'abord à l'adolescence, entre 12 et 20 ans. Ensuite, plus récemment, alors que je suivais une psychanalyse, soit entre 32 et 37 ans. Évidemment, je n'écrivais pas absolument tous les jours pendant ces deux périodes. Mais la régularité, parfois la quotidienneté de ce travail, permettent de parler de journal. Dans ce journal, je n'ai jamais raconté, ou très peu, les événements de ma vie extérieure. Il s'agissait uniquement de ceux de ma vie intérieure, comme si elle se déroulait en parallèle et ailleurs. Le journal me servait de psychothérapie, avec un fonctionnement plus ou moins réussi. À la fin du deuxième cahier, quand j'avais 13 ans, j'écris en vers de Mirliton et je fais une sorte de mascarade de ce journal, commencé avec le plus grand sérieux. Cela cache une sorte de désespoir de n'avoir pas réussi cette libération que j'attendais de mon journal. Je joue à ma lettre une nouvelle que j'ai composée l'année dernière à partir des deux premiers cahiers, écrits à 12 et 13 ans, et qui reflètent exactement leur contenu. Donc avec la lettre, il y avait en même temps ce texte écrit d'après le journal. J'ai seulement utilisé le parti pris de la troisième personne dans certains passages, et j'ai évité les répétitions incessantes, quoique le texte de la nouvelle en conserve une trace. Le style est aussi plus travaillé, mais j'ai laissé autant que possible la naïveté et la difficulté de l'auto-analyse que l'on peut connaître à cet âge-là. Et quand j'ai lu ce texte réécrit par l'adulte, à partir du journal de l'âge de 12-13 ans, moi j'ai regretté de ne pas voir lire le journal de 12-13 ans. Je trouvais que le texte de l'adulte était fabriqué, artificiel. Ouais. Peut-être que le texte de 12-13 ans avait toutes sortes de défauts, mais qui devait peut-être être beaucoup plus prenant. À l'origine de ces journaux intimes, il n'y avait aucune intention littéraire, même si parallèlement j'ai toujours écrit, surtout de la poésie. Quand je tenais un journal, c'était pour me délivrer d'un problème obsédant et surtout d'une honte. À 12 ans, j'étais amoureuse d'une camarade de classe. Et sans rien connaître de l'homosexualité, je pressentais qu'il y avait là quelque chose d'inavouable, à cette époque surtout. Et pourtant, c'était une passion très platonique. D'autre part, j'avais une autre blessure d'amour propre à cacher. Cette « amie », entre guillemets, était ma rivale dans le domaine scolaire. Comment parler à quiconque d'une passion aussi ridicule pour quelqu'un que je feignais de détester ou de mépriser? Donc le journal intime était mon seul refuge. Ensuite, il m'a servi de truchement. J'en faisais lire des passages, les moins brûlants, à l'ami en question, espérant lui faire deviner mon sentiment. Mais c'était quelqu'un de positif, sans aucun romantisme, et qui ne pouvait entrer dans ce jeu, ce qui probablement me rassurait beaucoup. Le deuxième journal, je l'ai tenu au cours de ma psychanalyse. J'avais entrepris un traitement pour me débarrasser d'un problème de boulimie. Ce désordre était apparu plus tôt, à l'âge de 20 ans exactement, mais j'avais réussi à le maintenir dans des proportions acceptables depuis que je travaillais et que j'étais marié. Quand je me suis trouvé enceinte, et surtout de mon second fils, la boulimie est devenue irrépressible et obsédante. Après l'accouchement, j'ai donc entrepris une psychanalyse et j'en ai suivi le déroulement sur des cahiers tenus au jour le jour. Aucune page ou presque ne relate le contenu des séances. Il s'agit plutôt d'un contrepoint, d'un complément ou d'une psychanalyse en parallèle où le cahier joue le rôle du thérapeute. L'écriture me permet de me regarder en miroir. À la lecture, ces cahiers ont une tonalité très intellectuelle, très distanciée. J'ai l'impression de disserter sur mon cas en cherchant à percer le secret des symboles qui peut révéler de l'âme humaine en général. Cette tendance à intellectualiser est d'ailleurs très forte chez moi. Le résultat de toutes ces démarches a été curieux. De même que mon premier journal, mon travail psychanalytique a été un échec par rapport au but que je lui avais fixé, car j'étais toujours aussi boulimique. Et cette fois, j'avais pris beaucoup de poids, comme si mon corps ne parvenait plus à garder l'équilibre. Mais en même temps, je me suis remise à écrire, et je n'ai plus jamais eu de crise d'asthme, maladie qui m'avait également beaucoup inhibé depuis l'âge de 18 ans. Pour moi, donc, le journal intime avait une fonction d'exutoire et de thérapie. Même si l'objectif conscient ou non que je lui ai assigné n'était pas atteint, il m'a été nécessaire de le tenir, et certainement, ces cahiers m'ont évité de sombrer dans de plus grands désordres, et surtout dans la dépression. Le désir de dominer la situation s'y exprime par la distance intellectualisante qu'on peut critiquer, mais qui m'a évité aussi le pire, j'en suis sûr. Même si je n'en faisais pas un exercice littéraire, je trouve souvent, en le relisant, des tournures de phrases recherchées qui semblent travaillées. Soit inconsciemment, j'écrivais là aussi pour un public, puisque j'écris depuis l'âge de 6 ans par ailleurs, soit la qualité de l'expression m'était nécessaire pour sauver mon identité, l'estime de moi-même, et donc lutter contre le désespoir. Une analyse un peu plus compliquée et plus riche des fonctions du journal. Alors, le 10. Des fragments. Femme, 42 ans, sociologue, grande ville de province. C'est triste de voir son identité ainsi ratatinée. Mais enfin, c'est un... Elle s'appelle Marie-Dominique Pau, je dis son nom. C'est une personne tout à fait remarquable, vous allez voir, elle est très créative. Pour ma part, depuis l'âge de 8 ans, j'ai écrit mon journal régulièrement. Tout aussi régulièrement, j'ai brûlé par paquets entiers. Pourquoi ? Petit A. Peur de donner après ma mort une image de moi à mes proches qui les gênerait et qui serait irréversible. Je pense qu'un journal intime peut faire beaucoup de mal à ceux qui vous ont aimé, non pas en raison de ce qu'on écrit sur eux, mais en raison de l'image qui se sont construites de vous pour les aider à vivre et qui ne correspond pas en général avec l'image que vous avez de vous-même. Toutes les illusions de la communication, le mystère de l'être, etc. Petit B. Parce que, me relisant, j'étais frappé, 1. Par mon pessimisme et mon agressivité, 2. Par la mauvaise qualité de mon style. Ces deux aspects, dévoilés par le journal, crûment, ne m'aidaient pas à vivre. Toutefois, sachant ça, le brûlant régulièrement, j'ai continué, scrupuleuse et méthodique, à écrire mon journal. Alors, je dis sa méthode, elle brûle tous les mois de septembre, l'année précédente, et ensuite, elle continue à tenir son journal. Mais c'est aussi une manière d'éliminer, de faire le vide, c'est une mue, c'est des vieilles peaux dont on se débarrasse. Ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que je n'ai pas écrit un journal, mais en même temps plusieurs types de journaux. Ce que j'ai brûlé, c'est le journal traditionnel. Ce que j'ai gardé, ce sont les journaux parallèles. Je m'explique. Outre le journal traditionnel, grand A. Je faisais aussi des classeurs dans lesquels je collais des documents. Je le fais toujours. Tickets de cinéma, dessins, cartes postales reçues, invitations, les petites choses du quotidien avec la date, les personnes concernées, mes impressions, des poèmes, des citations. C'est plus distancié que le journal rédigé. Tout est rangé par année. Et ça me semblait moins compromettant que le journal traditionnel. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas brûlé. B. Mes classeurs de voyage. Cartes postales, itinéraires, renseignements pratiques, photos prises, impressions, incidents, budget, etc. C. Les poèmes, écrits, publiés ou non, ont toujours appartenu aussi pour moi à l'ordre du journal intime. Alors ça, question de définition personnelle. D. Le journal destiné à être publié, ou qui finit par l'être, tel le texte que je vous envoie. Alors il y avait avec la lettre, un bout de journal qu'elle avait fait publier dans une revue, et dont elle expliquait d'ailleurs, après dans une note, qu'elle s'en mordait les doigts parce qu'elle avait fait publier trop tôt. Ce journal décrivait ses relations avec une personne aimée, et puis après la publication, ses relations avaient changé. Enfin, c'était prématuré, et donc il faut tout de même observer un certain délai, hein, pour voir s'il est... Et, depuis peu, ce que j'appelle mes albums de plaisir, qui s'apparentent au genre livre unique, avec un propos plus plastique, ce sont aussi des journaux intimes. Recueil de notes écrites et plastiques en rapport avec les plaisirs des sens, couleurs, odeurs, touchés, et des événements de ma vie esthétique, sentimentale, spirituelle, en vue d'albums beaux à voir, à sentir, à toucher. Alors je les ai vus, ces albums, elle me les a montrés. Ils sont effectivement tout à fait charmants, ces espèces de créations esthétiques, artistiques. Les premiers albums ont pour titre Impressions bleues 1 et 2, Récits de voyage, Cartes de correspondance, Choses douces pour jours de douleur, Jardin 1 et 2, Moments de la mort d'une rose, Météorologie marine, Écriture, Automne 1 et 2, etc. Ça signifie que le journal intime est multiforme. Pour ma part, je fais plutôt un journal pour juger de la densité de ma vie. C'est un étalonnage de la densité. Toutefois, lorsque les événements se précipitent, quand la densité prend le dessus, le journal se tait. Il y a comme ça une phrase piquée au hasard, en passant toujours chez elle, dans sa troisième lettre, parce qu'il y a cinq lettres. J'ai failli, comme d'habitude, brûler mon journal de l'été 87 à l'été 88. Je l'ai finalement envoyé à quelqu'un. Et je me suis dit qu'au fond, je pourrais vous l'envoyer pour votre étude. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Horrible que je suis. J'ai dit que je ne voulais pas. Parce que j'avais déjà avec elle des liens impersonnels qui m'empêcheraient de faire quoi que ce soit de son journal, tout simplement. Il faut lire, alors aussi autre méthode, il faut lire des journaux intimes, gens qu'on ne connaît pas. Parce que sans ça, ça aurait été certainement passionnant, mais j'aurais pu strictement rien en tirer. Et il ne faut pas être impliqué dans un rapport direct avec les gens, ou alors c'est autre chose. Dernière lettre, le clou, c'est le numéro 32, et ça va être assez court, c'est une dame, 82 ans, professeur retraité, peintre région parisienne. C'est une forte, vous allez voir, une forte personnalité. Elle décrit ainsi son journal. Commencé à 12 ans, carnet caché dans la cheminée d'un pauvre appartement de banlieue, je l'ai tenu tout au long de ma vie. J'ai 82 ans, et pas encore gaga. Tout au long de ma vie, si bien que ce sera toute une vie qu'il faudra débobiner, si on veut le lire. La petite parenthèse, je l'ai vu, son journal, il fait un tout petit peu plus d'un mètre cube. Je peux même plus compter en nombre de pages, c'est fantastique. Absolument fantastique. Bon. Je n'ai pu le tenir pendant 15 ans, donc au milieu de la vie, il y a une période de trop grande... Ça, c'est
classique, trop grande activité, où elle n'a pas pu le tenir. Je n'ai pu le tenir pendant 15 ans, trop de travail, marié, mère aveugle, petite fille à élever, à aider dans ses études, 9 heures de travail par jour, enseignante, plus cours particuliers. Jusqu'ici, ni mes vieilles amies, ni même ma fille, 42 ans, n'ont témoigné de l'intérêt pour lui. Mon mari a l'air de l'ignorer, mais je sais qu'il en est fort jaloux. Deux personnes ont seulement souhaité le lire. Une femme de ménage, venue m'aider à mettre mes cahiers dans de vieux draps, héritage de ma grand-mère, nous en faisions des paquets, que l'on cousait. Et j'appelais ces paquets, de 3 ou 4 cahiers, mes momies. Et on mettait dessus la date de fabrication. En les rangeant, ma femme de ménage les feuilletait, et elle s'écriait « Oh, ce que c'est bien, ce que je voudrais les lire !» Mais je ne les lui prêtais pas. Et les momies s'entassaient dans des cartons qui, pour dérouter les curieux, portaient l'étiquette « linge blanc ». L'autre personne, curieuse de ses écrits, fut un homme, Y.E., un écrivain, un poète. Sachant que j'écrivais, il se montra chaleureusement curieux de mes momies. Pourtant, je fus toujours rétive à les lui montrer, me contentant de lui donner quelques chapitres d'un long récit de mon enfance, que j'écrivais parallèlement, et quelques poèmes. Y.E. m'encouragea à écrire. Je l'entends encore. « Jeanne, donnez-moi une de vos momies !» Mais le pauvre Y.E. mourut d'un cancer. Et mes momies ne furent plus convoitées. C'est une personne assez extraordinaire. Voilà, enfin, il y a encore beaucoup d'autres gens. Toutes les lettres que je n'ai pas lues, et il vous reste le plaisir de les lire vous-même. Voilà.
Merci beaucoup.